Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les actions des membres du collectif Chatons dans le domaine de l'éducation, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme l'initiative Date Agir de l'ADEME et aussi la chronique L'Apituite de Luc. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'APRIL, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'APRIL. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours en nous posant toutes questions. Nous sommes mardi 27 septembre 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Isa, belle émission.
Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique Pépite Libre. Pour sa première chronique de la saison 6, Jean-Christophe Becquet va nous parler de Date Agir, une initiative de l'ADEME pour apporter l'information environnementale au plus près des citoyens. Jean-Christophe est au téléphone avec nous. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle saison de Libre à vous. À toi la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord saluer la réactivité de l'équipe Centipède. Dans ma dernière chronique, consacrée à ce réseau libre de géolocalisation symétrique, je les interpellais sur la licence de leur documentation Creative Commons by NC SA. Attribution, pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions. Cette licence n'est pas libre en raison de sa clause NC. Ils ont très rapidement fait le nécessaire en changeant de licence en faveur de la Creative Commons by SA. Attribution, partage dans les mêmes conditions. Le réseau Centipède RTK est donc désormais un commun, intégralement disponible sous licence libre. Cet exemple illustre très bien le pouvoir dont est investi l'auteur d'une œuvre. En effet, c'est à lui que revient le choix des conditions dans lesquelles il souhaite publier son travail. Opter pour une licence libre, c'est permettre la réutilisation et la modification du contenu, y compris à des fins commerciales. Ces libertés accordé par l'auteur, favorise la diffusion du contenu. Dans le cas du réseau Centipède, c'est une riche base de connaissances qui est ainsi partagée et accessible à tous. Passons maintenant à la pépite du jour. Date Agir, une ressource libre que l'on doit à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Ce projet repose sur la conviction que la diffusion et la réutilisation des données environnementales permet d'accélérer la compréhension des enjeux climatiques et le passage à l'action en faveur de l'environnement. Date Agir, c'est d'abord plus d'une centaine de jeux de données dans le domaine de l'alimentation, de la mobilité ou du logement. Les données sont disponibles sous licence ouverte étalable, une licence libre pour l'ouverture des données ou open data. Citons par exemple ArboClimat, une base de données d'arbres destinée à guider les personnes en charge de l'aménagement et de l'environnement dans le choix des essences à implanter selon leur capacité à stocker le carbone, leur impact sur les îlots de chaleur urbains, la résilience de l'essence, leur intérêt pour la biodiversité, leur impact sur la qualité de l'air, et leur potentiel allergisant. On trouve aussi Elecdom, qui donne les courbes de charge journalières de consommation électrique par type d'appareil de 100 logements représentatifs du parc français. Citons encore la base carbone, une base de données publique de facteurs d'émission. Ces données sont nécessaires pour la réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et plus généralement tout exercice de comptabilité carbone. Enfin, bel exercice de transparence, Datagir partage une base de l'ensemble des dossiers d'aide engagés par l'ADEME sur les trois dernières années, qu'il s'agisse de subventions ou d'aides remboursables. Datagir, c'est aussi un ensemble d'applications destinées à rendre plus accessibles les données ouvertes par l'ADEME. Citons par exemple « Que faire de mes déchets ?» ou « Mes fruits et légumes de saison ?» On peut accéder librement à chaque application et à son code source. Par contre, j'ai constaté qu'il manquait la mention de licence sur certains défauts de code. J'ai donc ouvert des tickets pour demander l'ajout d'un fichier de licence libre. Après une dizaine de jours, la licence MIT a été ajoutée aux quatre logiciels concernés. La licence MIT est une licence libre très permissive. Elle respecte les principes du logiciel libre et permet la réutilisation du code sans obligation de repartage sous la même licence. Cet exemple illustre encore une fois que la licence est une composante indispensable pour parler d'une donnée libre ou d'un logiciel libre. Sans licence, le droit d'auteur s'applique par défaut et il faut contacter l'auteur et obtenir son accord pour chaque réutilisation. C'est contre-intuitif, j'en conviens, car on est tenté de se dire que si un contenu est publié sur Internet, c'est pour qu'il soit diffusé. Mais ce n'est pas ainsi qu'est conçue la loi. Je trouve que Datagir est une illustration parfaite de comment des données et des logiciels libres peuvent aider à changer les comportements. Grâce aux données ouvertes, nous sommes mieux informés et les applications apportent des réponses concrètes aux personnes soucieuses d'adopter des modes de vie plus vertueux pour la planète.
Merci Jean-Christophe, tu démarres fort la saison 6, merci pour cette belle chronique, bravo pour tes réussites, tes œuvres de sensibilisation qui ont permis d'ajouter une licence là où elle manquait ou de rendre une licence libre là où elle était juste ouverte. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez vous aussi faire comme Jean-Christophe, c'est-à-dire que vous pouvez aussi sensibiliser au logiciel libre, à la culture libre, vous pouvez contacter les personnes, contacter les structures, le proposer de publier leurs données ou leurs œuvres sous licence libre. C'est quelque chose qui est à portée de tout le monde. Donc, si vous cherchez une action simple à faire, on vous a donné un exemple aujourd'hui. Donc, merci encore Jean-Christophe et je te dis au mois prochain pour une nouvelle pépite.
Merci Isabella pour ce retour enthousiasmant et encourageant. Belle émission et au mois prochain.
Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de chatons et éducation. Chatons, pas les petits chats, bien évidemment, mais les membres du collectif Chatons au Chaton, hébergeur alternatif, transparent, ouvert, neutre et solidaire. Nous allons d'abord écouter Little Fingers par le groupe Vienna Ditto, qui malheureusement n'existe plus. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
If I seem a little lost,
Nous venons d'écouter Little Fingers par Vienna Ditto, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0. Cette licence permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur les actions des membres du collectif Chatons dans l'éducation. Nous allons notamment échanger avec Audrey Guélou, membre de Picassoft et doctorante à l'Université de technologie de Compiègne, et avec Neil, contributeur à la Contrevoix, anciennement 42L. N'hésitez pas à participer à notre conversation. Vous pouvez appeler le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton chat. Picassoft et la Contrevoix font partie du collectif Chatons, un collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, c'est la signification de l'acronyme, qui s'engage entre autres à n'utiliser que des logiciels libres pour leurs services en ligne et à ne pas exploiter les données des utilisateurs et utilisatrices. On appelle les membres de ce collectif Chatons, logiquement, je dirais-je. Le collectif Chatons est une initiative coordonnée par l'association Framasoft. Elle a lancé cette initiative en 2016 et depuis, plein de structures et personnes physiques ont rejoint le collectif qui compte aujourd'hui près de 100 membres. Aujourd'hui, nous avons invité deux membres de ce collectif, ou bien deux personnes représentantes de membres de ce collectif qui agissent notamment dans le secteur de l'éducation, donc Audrey Guélou de Picassoft et Neil de la Contrevoix. Et ils vont mieux présenter les actions de leur structure aujourd'hui. Je vous propose de commencer par une question plutôt classique, donc par vous présenter. Qui êtes-vous et quel est votre rôle dans votre structure? Audrey, tu veux commencer peut-être?
Oui, bonjour. Donc Audrey, j'ai rejoint l'association Picassoft il y a un peu plus de 3 ans. C'était à la fin de mon cursus d'étudiante en ingénierie informatique à l'Université de technologie de Compiègne. Donc. Et puis maintenant, je suis toujours à l'UTC. Je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication au laboratoire de sciences humaines et sociales de l'UTC qui s'appelle COSTEC. Voilà.
Merci Audrey. Neil.
Oui, bonjour. J'ai participé à la création de la Contrevoix sous le nom de 42L à l'époque, en janvier 2019. quand je suis rentré à 42 Paris, qui est donc une école d'informatique dans Paris 17e.
Parfait. Donc, merci pour cette présentation. Bah, on va présenter aussi vos structures, donc les deux chatons dont on parle aujourd'hui, Picassoft et la Contrevoix. On va inverser. Je commence par Neil. C'est quoi la Contrevoix ?
Alors, la Contrevoix, c'est une association qui a pour but de sensibiliser à l'éthique dans le numérique. Donc, elle organise ses activités de sensibilisation à travers essentiellement des conférences, des ateliers et des débats. Essentiellement à 42 jusqu'à présent, et elle héberge également des services libres et open source qui permettent d'associer la théorie à la pratique, tout simplement en donnant des alternatives concrètes à utiliser, à installer sur ces appareils. Voilà, donc la Contrevoix, c'était à l'époque, ça s'appelait 42L, mais maintenant on s'appelle la Contrevoix parce qu'on est en train de partir de notre école. Avant on était une association étudiante, et maintenant on se dit que ça serait bien de pérenniser ce qu'on a fait, de continuer ce qu'on a fait, mais dans d'autres universités, dans d'autres écoles que la nôtre. Et donc maintenant qu'on est bientôt plus étudiante et étudiant, ben, on aimerait continuer dans notre lancée ailleurs, voilà.
Je remercie d'ailleurs Neil et toute l'équipe de la Contrevoix parce que Neil a accepté de participer à cette émission alors que vous êtes en pleine migration. Vous avez migré votre site tout récemment. C'est un changement, c'est un bouleversement sur plein d'aspects. Donc merci d'avoir fait l'effort de venir tout de même à notre émission.
Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça nous permet de lancer notre nouveau site qu'on a mis en production avant-hier.
Bah, on est ravis de pouvoir annoncer en direct le nouveau site de la Contrevoix. Audrey, je te laisse présenter l'association Picassoft.
Oui, eh bien Picassoft, c'est vrai que comme la Contrevoix, c'est une association qui est née dans un milieu étudiant. Elle a commencé à fonctionner en 2016 et puis elle a été créée officiellement en début 2017 par des étudiants et des enseignants de l'Université de Technologie de Compiègne. C'était à ce moment-là une volonté de contribuer justement à l'initiative des chatons en créant un chaton local, donc au niveau de l'UTC, et puis de contribuer ainsi donc à la redécentralisation du web à ce moment-là, puisqu'il s'est agi en premier lieu d'héberger des services libres également. Donc ça a commencé par un service de discussion instantanée, Mattermost, un service d'écriture collaborative en ligne, un service de pad, et puis Picassoft ensuite, et puis aujourd'hui principalement. C'est vrai qu'on dit que c'est une association d'éducation populaire au numérique et aux enjeux aussi de la culture libre et des logiciels libres. Donc on fait aussi beaucoup d'actions de sensibilisation, de formation auprès des étudiants et des étudiantes de l'UTC et au-delà. Voilà, donc de la sensibilisation, de la formation et de l'hébergement de services web libres. Ce sont les trois pôles d'activité de Picassoft.
Tu as cité quelques-uns des services que votre association propose. En fait, les chatons, à la base, sont des hébergeurs. Après, les associations proposent bien évidemment d'autres activités. Est-ce qu'il y a d'autres services qui sont rajoutés entre-temps ?
Oui, entre-temps, alors on va dire il y a une dizaine de services qui sont disponibles, qui sont accessibles depuis picassoft.net. Alors si j'en cite quelques-uns, donc on avait les tout premiers Mattermost et Etherpad. On a eu un autre service de pad aussi qui utilise le format Markdown. C'est un autre format d'écriture, mais ça fonctionne sur le même principe de l'écriture collaborative en ligne. Il y a un service de chat vocal qui s'appelle le Mumble. Il y a aussi des instances qui permettent de partager des contenus multimédia comme Peertube, c'est du partage de vidéos. Il y a aussi une instance Mobilisons qui permet d'organiser des événements. On utilise aussi des services comme du partage de fichiers, sécurisés, des tableaux en ligne. Enfin voilà, il y a une dizaine de services à découvrir à partir de picassoft.net. Alors si je précise maintenant, peut-être éventuellement on a un petit souci de timing. Disons, on a eu une migration d'un des serveurs de Picassoft qui est passé de Toulouse à Compiègne. Aujourd'hui en fait, il se réinstalle aujourd'hui, et donc aujourd'hui même on a quelques services qui sont en rade, mais c'est temporaire, ils devraient revenir ce soir si tout va bien et tout ira bien. Donc voilà, juste pour prévenir, ne soyons pas surpris, quelques sites ne sont pas disponibles, mais ce soir ça arrivera.
Je me fais pas de soucis, les services sont en ligne sous peu. Neil, pareil, donc la Contrevoix, c'est un chaton, un hébergeur, entre autres. Quels sont les services que vous proposez dans votre association ?
Alors nous, on propose 8 services. On a commencé par le mail, alors c'était peut-être pas le choix le plus judicieux, mais voilà, donc on propose bah, par exemple du mail, ce qui permet à des personnes d'avoir une adresse mail en @42l.fr ou @courrier.dev ou @kittens.army chez nous, plutôt que chez Gmail ou chez Outlook. C'est vraiment, je pense, l'étape la plus importante quand on essaye de... l'une des étapes les plus importantes quand on essaye de se dégoogliser. Ensuite, on propose également un raccourcisseur de liens ou un service alternatif à Google Forms. Voilà, on propose quelques petites alternatives comme ça, mais effectivement, on n'a pas, par exemple, les moyens de Picassoft vis-à-vis de notre infrastructure, donc on tombe sur un tout petit serveur. Et donc, voilà, on reste assez, assez sobre, on va dire, sur l'hébergement de nos services.
C'est déjà beaucoup, et ça va peut-être venir.
On espère.
Et tous ces services, vous les proposez en premier lieu à des étudiants, quelle est votre cible principale?
Alors, la plupart de nos services sont en libre accès, donc n'importe qui peut les utiliser. Et il se trouve que beaucoup de personnes qui sont de l'extérieur de notre école utilisent déjà nos services. Et après, effectivement, on a quelques services qui sont sous adhésion, pour des raisons d'espace disque essentiellement, parce que comme on a dit, on a une petite machine. Et dans ces cas-là, en fait, on a remarqué que peut-être un tiers des personnes qui ont adhéré à l'association ne viennent pas de 42. Et donc, en fait, on cible un public qui est manifestement assez large, essentiellement, je pense, grâce aux chatons, parce que comme on a rejoint ce collectif, ça nous a donné un peu de visibilité, et donc ça nous a permis de toucher des publics auxquels on s'attendait pas, surtout des publics, en fait, locaux. Donc, des personnes qui sont dans la région de Saint-Ouen, donc près du 17e, qui ont regardé la carte chaton et qui se sont dit « Ah, il y a un chaton près de chez moi !» Et donc, qui ont fait cet effort de venir nous voir et nous demander si on pouvait pas leur fournir des services. Et donc, on est content et contente que ça puisse servir à d'autres personnes que notre public original. Alors maintenant, de toute façon, comme on compte sortir de notre école, on va avoir une portée un peu plus large et un public qui va changer. Mais voilà, ça nous fait très plaisir que ça soit utilisé ailleurs.
C'est bien de rappeler que l'initiative Chatons, justement, c'est coordonnée par Framasoft qui met à disposition un site avec une vue géographique, avec la possibilité de rechercher justement les chatons plus près de chez soi. Comme Pierre-Yves de... je ne me souviens plus le nom de famille.
Pierre-Yves Gosset.
Gosset, bien sûr. Pierre-Yves Gosset. Et merci de Framasoft l'aime rappeler. Les chatons peuvent être considérés aussi comme les gules. Hein. D'ailleurs, les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, un peu comme les AMAP, c'est-à-dire ce sont des associations. Plus si elles sont locales, c'est encore mieux parce que les personnes peuvent aller voir les personnes qui gèrent, qui maintiennent ces services, demander de l'aide, demander voilà, comment les utiliser, etc. Donc ça fait partie de la richesse des chatons, avoir aussi une relation humaine. dans la vraie vie.
Oui.
Audrey, c'est pareil, donc la cible principale, si j'ai bien compris, de Picassoft, c'était les étudiants à la base. Est-ce que c'est le cas ou plus ou moins vous avez aussi un pourcentage, un quota important de personnes qui ne viennent pas du monde de l'université, par exemple?
Alors, un pourcentage, je serais incapable de vous le donner, mais c'est vrai que au départ, oui, la cible première, disons la plus accessible pour nous, ça a été de proposer ces services-là aux étudiants et aux étudiantes de l'UTC. Mais ça s'est élargi, c'est-à-dire que, bon, alors on est à peu près 4 500 étudiants et étudiantes à l'UTC, et sur Mattermost, le service donc, de discussion instantanée, on a un petit peu plus de 8 500 utilisateurs et utilisatrices, et en fait, voilà, on a d'autres associations, des petites entreprises aussi qui utilisent ce service-là. L'EPAD, alors l'EPAD, voilà, on ne récupère pas de données, on ne sait pas qui utilise nos pads, mais voyez, oui, il y a à peu près 3000 pads qui sont en service, qui sont en vie en ce moment. Donc voilà, on touche en premier les étudiants et les étudiantes de l'UTC, mais ce sont des services en effet locaux pour des associations qui sont autour de Compiègne, mais pas que. Voilà, donc cette relation, comme tu le disais plus tôt, d'avoir une relation locale où on est proche, où on peut répondre s'il y a un problème sur un pad, si on a une question vis-à-vis d'un service. C'est vrai que voilà, les membres de Picassoft sont en général assez réactifs pour proposer une aide, proposer des conseils, etc.
On a parlé donc de services, mais l'émission d'aujourd'hui, c'est les actions des membres du Chaton dans l'éducation. En fait, parmi vos actions, il y a notamment des actions, des ateliers, des conférences, etc. On va voir plus en détail ensemble, qui sont orientées en premier lieu, on va dire, vers les étudiants. Donc départ, l'origine en fait finalement de vos associations. Pour la Contrevoix par exemple, ce nom, ça vous l'avez cherché longtemps avant de changer de nom et vous avez choisi ce nom et je pense que c'est très inhérent en fait à l'origine finalement de votre association.
Oui, tout à fait. En fait, l'association s'est créée assez tôt quand on est rentré à 42. Parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait énormément de conférences et d'activités au sein de notre école qui avaient pour vocation de promouvoir les grandes banques, les géants du numérique, les GAFAM justement, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, mais aussi d'autres grandes entreprises du CAC 40 qui venaient directement dans l'école. Alors je ne sais pas s'ils étaient invités ou pas, peut-être pour certaines, mais en tout cas qui missionnaient des membres pour des salariés pour aller fournir des conférences, proposer des offres d'emploi, offrir des buffets gigantesques. Bon, on s'est dit que, en fait, dans leurs conférences, la vision que ces entreprises apportaient n'était pas, ne correspondait pas forcément à la vision qu'on a, nous, du numérique et de l'éthique dans le numérique. Et donc, on a décidé, pour amorcer une sorte de contre-influence au sein de notre école, d'organiser nos conférences à nous. Et ça a plu à l'école finalement parce qu'on fait de l'animation, on anime un peu l'école. Et puis c'est une initiative étudiante et donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on a organisé petit à petit, une fois par mois, des conférences régulières à 42 pour contre-influencer, pour une sorte de contre-voix finalement à ces grandes entreprises.
Parfait. Et donc, dans le cadre de votre association, les enseignants n'ont pas joué de rôle, parce que, comme tu vas probablement le rappeler, l'école 42, c'est une école un peu particulière.
Alors oui, tout à fait. À 42, il n'y a pas de professeur. L'école est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est un peu open bar, c'est-à-dire que les étudiantes et les étudiants peuvent venir travailler quand ils ou elles veulent. Et en fait, il n'y a pas de corps enseignant. Il y a des encadrantes et des encadrants pour le côté administratif et quelques détails techniques éventuellement, mais... Voilà, donc ça reste... En fait, les étudiantes et les étudiants sont en permanence en auto-formation. Et donc, tout ce qu'on a comme élément extérieur, ce sont les conférences. Ce sont les personnes qui viennent présenter leurs éléments, leurs connaissances, leurs expériences, les apports théoriques, on va dire, du cursus, sont essentiellement à travers des conférences, s'il doit y en avoir.
Donc une initiative étudiante pour les étudiants. Picassoft, c'était un peu différent, si je dis bien. Il y a eu une espèce de collaboration entre les étudiants et les enseignants. Tu veux vous en parler un peu plus, Audrey?
Oui. Alors je suis allée interroger les personnes concernées, puisque donc je n'y étais pas, mais c'est vrai que ça a été un véritable dialogue entre eux, donc quelques étudiants et enseignants de l'UTC, et en particulier, je vais le nommer, Stéphane Croza, qui a été à l'initiative donc de la association et puis de beaucoup de, justement, de dispositifs de formation aussi à l'UTC. Je pense par exemple aux API, les activités pédagogiques d'intersemestre. À l'UTC, entre deux semestres, on a une petite période d'un mois comme ça où on a des activités étudiantes. Et puis, avec Picassoft, par exemple, il y a des formations d'initiation à l'utilisation de Linux ou d'initiation à l'auto-hébergement. Et ça, c'est vrai que c'est possible à l'UTC. Et puis, bon, je vais nommer Stéphane, mais il y a d'autres enseignants et enseignantes qui sont aussi sensibilisées au livre et puis qui poussent à l'utilisation de logiciels libres pour, alors que ce soit dans le cadre de leurs enseignements ou dans le cadre de formations annexes comme celle dont je viens de parler. Et puis il y a aussi il y a la possibilité de mener des enseignements expérimentaux, on va dire les TX on les appelle, où des étudiants vont travailler sur un projet par exemple qui a permis pour Picassoft de sécuriser des parties de l'infrastructure Et ça, c'est vraiment dans le cursus ingénieur et c'est aussi fait en collaboration avec des enseignants, en effet, de l'UTC. Et puis, et voilà, c'est vrai qu'à l'UTC, on a pour le coup une, il y a un tiers des enseignements qui sont des sciences humaines. Et donc, tout ce département de sciences humaines est porté aussi par, eh bien, des réflexions sur les enjeux de la technologie numérique, sur, après, notre, voilà, notre façon de comprendre le monde, de le percevoir. Et donc, on a, il y a quand même plusieurs enseignants qui sont assez sensibles à ces questions-là, à la question du libre, et donc qui ont aussi invité Picassoft à intervenir dans leur cours pour présenter, voilà, faire un petit peu de sensibilisation. Voilà, il y a quand même, c'est vrai, un mouvement qui est assez, qui ouvre certains dialogues aussi horizontaux entre étudiants et enseignants. Et c'est vrai que ça, c'est assez agréable aussi de sentir que certains, que des enseignants poussent, déjà ne posent pas de résistance à ces initiatives-là et au contraire les accompagnent.
C'est un environnement effectivement propice, comme tu disais, à cette collaboration et à ces enjeux. Mais il faut dire quelque chose de positif aussi pour l'école 42. Ils vous ont mis quand même à disposition pas mal de matériel pour faire les conférences, tu me disais. Donc,
Effectivement, on a la chance d'avoir quand même des locaux, de bénéficier d'une salle, d'un public et de pouvoir même organiser régulièrement des activités avec le même public, ce qui amène à une certaine fidélisation de notre public et donc ce qui permet d'avoir éventuellement des contributeurs et contributrices qui rejoignent l'association. Et donc on a la possibilité de planifier des événements sur leur intranet. On a quand même le luxe de ne pas avoir à se prendre la tête à louer un local, par exemple, ce genre de choses. Donc même si on n'a pas du tout de soutien financier, on a quand même pas mal d'aide, on va dire, en nature. Voilà.
J'ai dit 42L par erreur, c'est l'ancien nom. Le nouveau nom, c'est la contrevoie.
Tout à fait.
N'hésite pas à me corriger si je le redis. Tu parlais de membres, contributeurs, contributrices qu'on peut arriver à recruter au moment où on propose des conférences ou des actions. Quel est le profil du membre type chez Picassoft et chez la contrevoie, Audrey?
Les membres types, alors disons, c'est quand même un membre qui est assez militant sur les questions du libre au départ, ou alors qui se posait pas mal de questions avant d'arriver à l'UTC. Alors on a des membres qui sont arrivés à Picassoft, j'ai dit l'UTC, à Picassoft, pour vraiment après progresser en avec leur capacité technique, c'est-à-dire en administration système. Il y a cette motivation-là pour certains et certaines membres, mais pas tout le monde. En fait, je dirais ce qui rassemble tout le monde, c'est cette volonté quand même de contribuer, d'être un acteur ou actrice de la plus grande visibilité, de la plus grande appropriation des logiciels libres par les étudiantes de l'UTC et puis au-delà, de contribuer à cette redécentralisation du web. Je pense que ça, ce sont des points communs parmi tous les membres de Picassoft. Ouais.
O'Neill?
Je ne sais pas si on peut facilement définir un profil type dans notre association. Comme notre public est particulièrement varié, comme l'école accueille des personnes de nombreux horizons, de nombreuses nationalités également, ça nous offre un public assez large où il n'y a pas vraiment de, on peut même pas forcément définir de tranche d'âge facilement. Donc on a des personnes qui gravitent autour de l'association, qui contribuent de manière assez ponctuelle également. Et je ne sais pas si peut-être que ça intéresse particulièrement les geeks. Peut-être, effectivement. Mais en fait, on arrive aussi à organiser nos activités de manière à toucher un public qui ne soit pas seulement les geeks. Et je pense que c'est aussi important parce que les questions des données personnelles, ça ne touche pas seulement un public geek. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire à travers nos conférences. Je ne saurais pas forcément dire si, en pratique, ça marche. Il faudrait qu'on pose la question en interne, si ce sont des geeks ou pas. Mais après, on est quand même dans une école de développeurs et développeuses, donc voilà.
On parlait d'action dans l'éducation. Une chose dans laquelle vous revendiquez sur les deux sites et auprès de vos structures, c'est l'éducation populaire. Donc il y a plein de définitions possibles d'éducation populaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et comment ça se concrétise en fait dans les actions portées par vos associations? Je fais comment? C'est Nate cette fois.
D'accord. Alors, en ce qui me concerne, au début, En ce qui nous concerne, au début, en fait, à l'association, on ne se considérait pas du tout d'éducation populaire. Enfin, pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne s'était même pas posé la question parce qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était, finalement. Et puis, petit à petit, en grandissant et en regardant un petit peu ce qui se faisait dans d'autres associations, comme Framasoft notamment, en fait, on a pris du recul sur les activités qu'on avait organisées. Ça nous a permis de nous positionner un peu dans l'écosystème associatif et peut-être aussi de gagner un petit peu en maturité sur les actions que nous organisions. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on définit l'éducation populaire comme une manière de s'émanciper, déjà en dehors des cursus, traditionnels, classiques, et aussi de manière participative, c'est-à-dire qu'on va donner des outils. En fait, ça sera aux personnes aussi de les prendre et d'expérimenter avec. C'est une sorte d'expérimentation permanente, en quelque sorte, je pense. Après, je n'ai pas la prétention de donner une définition universelle d'éducation populaire, bien évidemment, mais...
Je ne crois pas que ça existe.
Je crois qu'il n'y en a pas, effectivement. Mais donc voilà, c'est le fait de participer à une contre-culture de cette manière, je pense que c'est notre façon à nous de faire l'éducation populaire.
Et Picassoft et l'éducation populaire ?
Oh, je crois qu'on rejoindrait vraiment la définition que tu viens de donner, Neil. C'était les mots les plus importants, c'est cela. En effet, on va dire que l'objectif de l'éducation populaire, c'est, tu l'as dit, une démarche d'émancipation, une démarche de rendre autonome. En fait, l'idée, c'est de permettre d'accompagner les gens qui le souhaitent à acquérir des compétences, la capacité en fait d'agir dans le monde numérique. En fait, c'est la capacité de comprendre comment les outils numériques fonctionnent, de savoir comment ils s'en servent, pour être en mesure ensuite de les choisir, de pouvoir agir en connaissance de cause en fait dans le milieu numérique. Et donc concrètement il s'agit de reprendre les choses en main en fait, donc de manipuler ces outils là d'apprendre comment ils fonctionnent et puis de reprendre le contrôle dessus, de savoir comment ils s'en servent, comment ils fonctionnent. Et puis après, pour ce qui est des enjeux du numérique, et bien là ça va être de discuter simplement autour de ces enjeux, autour de la protection des données personnelles, etc., pour essayer de comprendre. Collectivement, c'est vrai que là, tu le disais, c'est en dehors des structures, des institutions classiques, on va le dire, de l'éducation, mais c'est vraiment une discussion où il n'y a pas d'ignorants, de sachants. Ici, c'est une discussion où on se rend finalement compte soi-même que, on a un savoir, on a une culture à partager, on a de l'expérience à partager, et puis on peut apprendre des autres aussi. C'est un petit peu ça, ce côté populaire. Et puis, l'idée, c'est d'acquérir les capacités d'agir dans son milieu numérique. Donc, comprendre les outils. Pour s'émanciper, tu le disais, c'est ce mot qui compte. Et puis voilà, c'est essayer de comprendre est-ce que l'utilisation de cet outil-là me sert vraiment, ou est-ce qu'il me rend dépendant ? Est-ce que je sais comment il fonctionne ? Pourquoi ? Dans quel intérêt ? Etc. C'est toutes ces questions-là.
Il me semble que vous avez donné deux belles définitions d'éducation populaire. Vous vous adressez aux étudiants, mais pas que, en fait. Notamment pour Picassoft, j'ai vu que vous avez fait aussi des actions auprès d'un public encore plus jeune,
oui.
Lycéens, collégiens. Tu veux peut-être nous dire quelques mots sur ça ?
Oui, alors en fait, tout démarre autour de la Fête de la Science. Donc la Fête de la Science, qui est un événement national à l'UTC tous les ans en octobre, il y a pendant 4 jours, tout un grand événement avec beaucoup de stands et d'ateliers par les étudiants, les enseignants et enseignantes de l'UTC autour d'une thématique en particulier. Et puis Picassoft y est souvent, si ce n'est toujours, pour présenter justement, faire des ateliers d'autodéfense numérique en particulier, auprès de publics qui donc peuvent être très jeunes. Je crois que ça allait de la maternelle ou du primaire jusqu'au lycée. Et donc en fait, pendant la semaine, donc le jeudi, vendredi en général, il y a des classes, donc des établissements scolaires qui viennent sur le campus de l'UTC, qui viennent visiter les stands, voir participer aux ateliers, etc. Donc on rencontre en effet des classes, des profs, des enseignants, et puis le week-end ensuite c'est plutôt des familles qui viennent nous voir. Donc là c'est un public, on va dire tout public. Et donc, en effet, à partir de cet événement-là, il y a eu des contacts qui ont été pris avec des enseignants de CM2, de 4e, de seconde, si je repars un petit peu dans l'historique, pour que ensuite Picassoft, quelques membres de Picassoft, interviennent directement dans les classes pour faire de la sensibilisation aussi aux enjeux du numérique, à la protection de sa vie privée en ligne. Donc voilà, après il faut adapter aux classes, aux âges, mais voilà, ça a été en effet une activité de Picassoft qui est à relancer maintenant, mais voilà.
Tu as parlé de la fête de la science, tu peux nous rappeler la période de l'année où elle a lieu ?
C'est en octobre et la prochaine aura lieu du 13 au 16 octobre.
Donc c'était bien de, c'est très de bien, préciser, c'est parce que si vous êtes intéressé, c'est pour bientôt. La même question pour Neil, je sais que jusqu'à présent, la Contrevoix, anciennement 42L, faisait des conférences voilà, dans le cadre de l'école. Bien évidemment, conférences, comme tu disais, ouvertes à tout le monde, donc il y avait d'autres personnes qui pouvaient venir. Est-ce que vous envisagez de vous adresser aussi à un public comme ça a été pour Picassoft, par exemple, des classes de lycéens, de collégiens. Est-ce que c'est quelque chose que ça vous plairait de faire et que vous avez envie de faire avec votre projet ?
Alors oui, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, l'un des objectifs de l'association. Comme nous avons pour vocation de sortir de notre école et d'intervenir dans d'autres établissements, on aimerait cibler en priorité les lycées, les universités, les collèges, si c'est possible, et essayer d'adapter nos formations, de créer de nouvelles formations pour cibler de nouveaux publics, et éventuellement, effectivement, des publics plus jeunes. Je pense qu'il y a un enjeu énorme à intervenir dans ces lieux d'émancipation et de partage de connaissances, et donc c'est ce qu'on essayerait de faire d'ici un ou deux ans, le temps qu'on réussisse à sortir et avoir les agréments nécessaires pour intervenir dans des établissements et éventuellement en vivre finalement, éventuellement avoir un modèle de financement qui se base aussi en partie sur les subventions publiques de cette manière.
Tu parlais d'agrément, il faut un agrément pour parler dans les établissements scolaires ?
Alors, je crois que ce n'est pas absolument nécessaire, mais en tout cas, il y a deux agréments qui sont particulièrement importants, qui peuvent être très valorisants pour lorsqu'on se présente dans un établissement. Il y a l'agrément jeunesse éducation populaire. Comme par hasard, il y a éducation populaire dedans, donc on se rejoint un petit peu. Et puis, il y a également, alors je suis pas sûr de l'agrément, mais du nom de l'agrément, mais je crois que c'est association complémentaire de l'enseignement public que j'ai découvert récemment par des cours sur un diplôme universitaire. Conduite de l'engagement associatif à Paris 8, qui permettrait à des associations d'être plus facilement reconnues pour intervenir dans des établissements.
Donc, pour vous rendre aussi plus visible et espérer de pouvoir pouvoir faire des actions le plus possible auprès de ces nouveaux publics.
Exactement.
Merci pour ce première partie d'échange. Je vous propose de faire une pause musicale. Nous allons écouter Comme une philosophie par La Muette. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Comme une philosophie, la trame d'un chant, par-delà la route, un chemin battu à mort, quelques lignes sur la feuille d'un arbre. Associé malfaiteur de nos âmes, mon chéri, tu chéris notre drame, tu finasses avec art sur notre firmament, tu épouses la courbe d'un temps qui odieusement a bouffé le beau cœur des amants. Comme une philosophie, la dame d'un camp, fleurissant les oreilles du vent. La voix est sans issue de discours, tous tes mots parlent d'amour. Associé malfaiteur de nos âmes, mon chéri, tu chéris notre drame. Sauras-tu admirer ma cambrure et mes chars? mon fossé sans appel. Fouler la femelle me vaudrait dans la fange. Imbécile et ne produit de pile. Qu'au nom de ton erreur.
Nous venons d'écouter Comme une philosophie par La Muette, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavani de l'April. Les autres personnes qui participent à l'émission sont Audrey Guélou, membre de Picasoft et doctorante à l'Université de technologie de Compiègne, et Neil, contributeur à La Contrevoix. Cette émission est consacrée aux actions que ces deux associations, membres du collectif Chatons, mènent dans le domaine de l'éducation. Et on a parlé en fait de ce que c'est l'éducation populaire, de comment voyez l'éducation populaire, comment se concrétisent les actions d'éducation populaire de vos associations. Et Neil, tu disais que vous envisagez de cibler un public plus large que les étudiants dans les prochaines évolutions à venir de l'association La Contrevoix. J'imagine que pourrez vous faire expérience aussi et profiter de ce qui est a déjà été mis en place par Picasoft, parce qu'en fait, Picasoft, vous avez pas mal de ressources que vous mettez à disposition en ligne. Tu veux peut-être nous en parler un peu ?
Oui. Alors, je pense en premier, disons, aux émissions de radio. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est accessible en ligne et puis qui nous a constitué pas mal de matériel finalement, parce que c'est de mai 2019 à fin 2021. On se rejoignait toutes les semaines dans le studio de la radiographie à Compiègne avec quelques membres de Picasoft pour bien parler pendant une petite heure d'un sujet, alors que ça pouvait être leur décentralisation du web. Pour changer, on a parlé de Linux, on a parlé d'ingénierie durable.
Et ça s'appelait comment l'émission ?
C'était La Voix est libre, c'est vrai que je fais le suspense. Non, c'était La Voix est libre, merci Isabella, en effet. Donc on a une petite soixantaine d'épisodes qui sont disponibles maintenant sur podcast.picasoft.net. Et donc, c'est une ressource en effet accessible en ligne à toute personne que ces sujets intéressent et qui resteront donc en ligne. Et puis les émissions de radio vont se poursuivre prochainement. Et on a aussi, c'est conjoint à Picasoft, c'est les formations en ligne qui sont disponibles sur LibreCours, LibreCours.net. Donc LibreCours, c'est une plateforme de formation en ligne dont les contenus sont sous licence libre. Et donc ce sont des formations qui ont été assez variées, mais qui tournent autour quand même du numérique. Il y a eu des formations auxquelles Picasoft a contribué, comme des formations à Linux ou des formations à l'initiation à la programmation avec JavaScript par exemple, et puis des formations sur la culture libre, les licences libres, le droit d'auteur, la low-technicisation numérique. Ici, là, on s'intéresse aux enjeux de conception d'outils numériques dans une perspective de plus de soutenabilité, plus de convivialité des outils. Donc après, on s'intéresse aussi aux enjeux environnementaux liés au numérique. Et donc tout ça, ce sont des formations qui ont soit un temps donné, ils ont par exemple c'est sur 6 semaines avec des animateurs et des animatrices de Picasoft qui sont là pour accompagner les apprenants, ou alors aussi ce sont des formations qui ont qui sont sur un temps infini où là on apprend à notre rythme, et puis les membres de Picasoft sont sur Mattermost de l'autre côté pour répondre aux questions s'il y en a.
Très bien. Mais La Contrevoix aussi, elle a déjà plein de ressources disponibles en ligne, je crois. Neil, tu veux en parler
un peu ? En effet, nous avons notre chaîne Peertube sur laquelle qui est hébergée par l'association Tedomum, qui est aussi chaton, que je remercie encore, qui nous permet d'héberger toutes nos vidéos de conférences, de toutes les activités qu'on organise, ou du moins tout ce qu'on peut héberger, tout ce qu'on peut filmer, en tout cas tout ce que 42...
La Contrevoix.
Alors, pour le coup, c'est 42 qui s'occupe de la captation de nos vidéos jusque-là.
Ah oui, la colle 42,
et,
pardon.
Et on remercie également les studios 42 de nous permettre de filmer nos activités. Donc, toutes nos conférences sont disponibles sur notre chaîne Peertube, ce qui permet de garder une trace de nos activités et permet également la réutilisation libre de ces contenus, puisque ces contenus sont sous licence Creative Commons by, donc attribution requise. Et nous avons également un dépôt qui est sur notre Git, donc notre logiciel de développement, notre logiciel de partage de code sur Internet, qui nous permet de partager également toutes les trames de nos activités de sensibilisation afin qu'elles puissent être réutilisées par d'autres collectifs, d'autres associations.
Je suis en train de, j'en ai parlé pendant la préparation de l'émission, toutes ces ressources que vous mettez à disposition. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres associations comme vous dans le collectif Chatons qui ciblent les jeunes, que ce soit étudiants, lycéens, collégiens? Est-ce que vous savez s'il y en a d'autres en plus de Picassoft et La Contrevoix? Est-ce que vous envisagez peut-être de vous coordonner ou de mettre encore plus en commun toutes les ressources? Ça, c'est une question que je vous donne comme ça.
Comme ça. Alors, c'est terrible, mais je suis incapable de citer un autre chaton qui...
Que ça n'existe pas. Hein,
pour lequel, alors, si, sans doute. Alors oui, tu as raison. Framasoft, absolument. qui s'adresse en particulier aux lycéens.
Le grand chaton.
Oui. Donc, il y en a absolument. Il faut aller voir sur chaton.org. C'est les chatons qui s'adressent au public plus jeune. Et pour ce qui est de la coordination entre chatons...
Ou d'un groupe, je ne sais pas.
Oui. D'un groupe
dans le collectif pour pouvoir s'entraider, partager éventuellement des expériences, des pratiques, je sais pas, hein, c'est mm-hmm.
Alors au niveau de la coordination, ce auquel je pense, c'est l'initiative Upload de Framasoft, lancée par Framasoft. Donc Upload, un nouvel acronyme pour l'université populaire libre, ouverte, autonome et décentralisée, qui est donc ce projet pour et bien justement créer des réseaux de personnes qui font de l'éducation populaire, notamment pour sur des sujets du numérique. Et donc dans cette initiative de Upload, par exemple, il y a eu le MOOC Chaton, ce cours en ligne des chatons qui a été mis en place. Et donc cette initiative là en effet, c'est une initiative tout de même pour coordonner justement des personnes qui œuvrent dans l'éducation populaire aux enjeux du numérique. Et donc, en effet, pour tous les chatons comme La Contrevoix et Picassoft qui œuvrent dans ce domaine-là, auprès de publics donc jeunes ou moins jeunes, eh bien, ça peut être une bonne initiative autour de laquelle se regrouper.
Je souhaite rajouter aussi qu'il y a d'autres quand même structures, par exemple, donc, on a vu Framasoft, mais aussi, il y a aussi AnimaFac ou MarsNet qui organisent des formations. Et d'ailleurs... En fait, c'est un sujet sur lequel on a déjà échangé avec les chatons à plusieurs reprises, parce que on s'est aperçu que tout simplement, eh bien, dans l'acronyme chaton, il y a collectif d'hébergeurs. Donc, ce sont avant tout des structures qui hébergent des services et qui font assez peu de formations, comme tu l'as souligné. Mais on espère, en tout cas, que cette initiative d'aller vers des publics et de sensibiliser de nouveaux publics, se démocratise un petit peu plus au sein des chatons. Et il y a pour ça également le projet Emancipasso, réalisé en par Framasoft en collaboration avec AnimaFac, pour créer une formation sur plusieurs jours qui serait entièrement financée par des partenaires, et donc qui serait libre d'accès pour notamment les chatons, qui permettrait de former finalement les personnes qui hébergent des services au sein des chatons à l'éducation populaire, à la transmission de connaissances et à l'accueil de publics non initiés. Et j'espère, en tout cas, j'ai assez hâte que Emancipasso démarre, parce que ça a l'air vraiment bien. Voilà.
Vous avez bien fait de rappeler ces formidables initiatives, et effectivement, ça permettra d'outiller, hein, de donner des compétences supplémentaires aux personnes et structures qui hébergent des services éthiques et qui veulent aller plus loin avec des actions de sensibilisation. Tout à l'heure, Audrey, tu as parlé de Mattermost, du fait que les membres sont à disposition disposition sur ce salon de chat, pour pouvoir répondre éventuellement aux questions des personnes. Oui. Et c'est justement la question que je voulais poser. Vous faites des conférences, vous proposez des formations ou des ateliers. Quels sont les retours des personnes qui participent à ces conférences, à ces formations? Est-ce que vous demandez qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce qu'ils vous écrivent? Est-ce qu'ils vont en savoir plus? Comment ça se passe le follow-up, c'est-à-dire les actions post-action?
Ah non, plus personne de l'UTC ne nous parle, ça n'a pas du tout. oui, en effet, non, on a des bons retours. Alors, disons des étudiants et des étudiantes qui assistent aux conférences et aux ateliers en général, ça se passe bien parce que ce à quoi je pense en particulier, c'est les étudiants et les étudiants qui participent aux activités pédagogiques d'intersemestre, donc ces formations d'une semaine à l'UTC. Donc par exemple à l'initiation à Linux, eh bien on a des étudiantes et des étudiants qui ensuite veulent rejoindre Picasoft parce que voilà, le sujet leur a plu, la convivialité au sein de l'association, les sujets leur ont plu. Et puis aussi au niveau des étudiantes et des étudiants, alors à ma connaissance on ne fait pas de sondage vraiment à chaque fois pour savoir si ça a plu ou non, mais c'est vrai qu'on est tout de même assez attentif au retour, et notamment oui sur Mattermost où on a un canal de discussion, le canal général dans l'équipe Picasoft. On a voilà 600-700 personnes avec lesquelles discuter, qui peuvent aussi voilà nous faire des retours sur les activités passées. Voilà ce à quoi je pense immédiatement.
Effectivement, de notre côté, on a la possibilité, grâce à 42, d'avoir un formulaire de commentaires pour chacune de nos conférences. Et donc, on en profite, effectivement, on a pas mal de retours à chacune de nos conférences. Et généralement, les retours sont plutôt globalement très positifs. On emmène sur des sujets très divers. Par exemple, la fois on a invité la Quadrature du Net ou Exodus Privacy, par exemple, on a toujours eu des retours assez positifs et intéressés par rapport à nos activités. J'irai pas jusqu'à dire systématiquement que ça emmène à la contribution, parce que alors même si les personnes sont intéressées par les enjeux de l'association et souhaitent éventuellement se dégafamiser à leur petite échelle, ces personnes n'ont pas forcément le temps ni l'envie de s'impliquer dans toutes les activités de l'association et l'organisation de stands, etc. Et parce que ces personnes, notamment, ne se sentent pas légitimes de porter ces enjeux elles-mêmes. Et donc, c'est un énorme travail sur lequel on doit faire, travailler, pour permettre aux personnes de se sentir un peu plus... à même de porter ces enjeux et de leur permettre aussi d'avoir le bagage culturel nécessaire pour éventuellement organiser des conférences à leur tour. Et ça, c'est l'un des plus gros enjeux qui font partie aussi de l'éducation populaire dont on parlait tout à l'heure, sur lequel on doit progresser encore.
Parce qu'effectivement, c'est un autre enjeu très important pour l'association, c'est comment garantir sa pérennité, si on pense que ça en vaut la peine, si on pense que la mission est juste. C'est important aussi de continuer à avoir des membres actifs, des bénévoles qui portent les actions. Tu parlais de la possibilité éventuellement de recruter de nouveaux contributeurs, de nouvelles contributrices. L'April aussi est une association, donc on est confronté à cet enjeu. Et c'est aussi important peut-être d'essayer d'animer aussi son propre réseau de membres, de soutien actif. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour garder la flamme?
La garder, ça, on y arrive. C'est la faire passer qui est plus difficile. Et effectivement, nous, on a essayé d'organiser des campagnes de recrutement. Alors, de recrutement, c'est plutôt des appels à l'aide, on va dire, des appels à contribution. Après nos conférences, par exemple, effectivement, on a eu des personnes qui nous ont rejoint ponctuellement sur quelques mois. Mais c'est difficile de faire durer cet engagement, notamment parce que on est dans un contexte d'association étudiante. Comme à Picasoft, je ne sais pas si vous avez les mêmes problématiques, mais effectivement, les étudiantes, les étudiants sont de passage à l'école et donc restent peut-être un an et demi, et puis après, c'est la fin de leur cursus. Alors, et le temps en fait que ces personnes-là puissent acquérir tout le bagage culturel que nous avons à transmettre et qui doit être forcément maîtrisé par les personnes qui souhaitent représenter ces enjeux, eh bien, ces personnes ont déjà fini leur cursus. Et donc, elles ne peuvent plus vraiment contribuer à l'association. Donc, voilà, c'est, comme je disais, c'est là où on doit certainement... on a une certaine marge de progression. Après, je ne sais pas trop comment ça va se passer quand on va quitter notre école, quand on va être affronté, quand on va être confronté à un public qui est certainement beaucoup plus large, mais beaucoup plus fluctuant. On n'aura pas un public particulièrement fixe. Je pense que ce sera encore plus difficile de recruter des contributeurs et des contributrices. Et je pense que voilà, il va falloir qu'on réfléchisse à cette question un peu plus sérieusement.
Oui. C'est un beau chantier, mais en même temps, c'est un chantier ambitieux et qui, je veux dire, assez enthousiasmante. Je veux dire, tout est nouveau. Vous avez tout à construire, en fait. Donc, oui. c'est compliqué, mais ça donne aussi envie, ça motive. Je pense
on
que
va
vous êtes. Et côté Picasoft, quelle est votre façon de garder la flamme, d'animer votre réseau interne?
Oh là, la flamme. Alors, la flamme brûle effectivement beaucoup à Picasoft. On a en fait les mêmes enjeux liés à l'ancrage étudiant. Hein. C'est vrai, tu le disais bien, Neil, le turnover, ce que l'on dit que quand les étudiants arrivent à l'UTC, ils vont être un semestre en stage, un semestre en Erasmus. Donc, c'est vrai qu'on a ce souci-là. Mais donc, ça, c'est inconvénient d'avoir un ancrage à l'UTC assez fort. Mais l'avantage, c'est qu'on a aussi une visibilité, disons, ponctuelle. C'est vrai qu'à chaque début de semestre, il va y avoir un grand événement à l'UTC qui est la journée des associations, où là, c'est le moment justement de raviver la flamme, c'est-à-dire là, on va présenter l'association, avoir un stand et puis essayer d'attirer du monde selon leurs affinités avec le sujet. Si ou elles préfèrent faire de la technique, animer des ateliers, faire de la radio ou simplement participer à la communication autour de Picasoft. Voilà, on va essayer de voir comment chacune peut trouver sa place si le sujet l'intéresse. Donc pendant voilà, des événements ponctuels de journée des associations, pendant ensuite eh bien, les conférences, les ateliers, en fait les moments en présence, c'est vrai, de Picasoft, là on va essayer de montrer que eh bien, chacune peut s'investir à sa mesure au départ. Et puis voilà, donc ces moments-là, on essaie de les rendre très, très prolifiques pour recruter du monde. Mais pour ce qui est de la pérennité de l'association, eh bien, justement pour répondre un petit peu à cet enjeu-là de pérennité de ce que l'on fait, eh bien, il y a un wiki de Picasoft, de tout ce qui est le...
Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un wiki pour le public qui connaisserait pas?
Oui, eh bien, le wiki ici, c'est... alors, ça part du wiki de l'encyclopédie. En fait, c'est un site web qui va essayer de structurer l'ensemble de connaissances qui vont être relatives à un sujet, à un thème, et ici, à l'association. Et donc, dans le wiki de Picasoft, on trouve eh bien, comment fonctionne l'association, comment fonctionne sa trésorerie, comment fonctionnent ses machines, comment lancer une activité, comment lancer un plan de communication. Enfin, voilà, tout a été détaillé. Et donc,
La documentation. C'est très important.
C'est la documentation. Non, mais tout à fait. Et donc, c'est un travail à chaque fois. Bon, on y pense en second temps. Et puis, on a heureusement certains et certaines membres qui insistent pour qu'on y travaille. Et je pense notamment à Quentin qui a fait énormément de travail sur le wiki de Picasoft. Il n'est pas tout seul, mais tout de même, il a insisté pour que beaucoup de nos pratiques et de nos petits tips soient capitalisés sur ce wiki-là. Et donc, forcément, ça aide aussi à accueillir les nouveaux et les nouvelles qui nous rejoignent, puisque voilà, bien sûr, si elles ont des questions, on en parle, mais les pratiques sont documentées. Et puis a priori, si d'un coup tous les anciens et les anciennes s'en vont, l'association peut toujours fonctionner s'il y a des bras, bien sûr.
Tu as parlé tout à l'heure de la fête de la science qui va bientôt arriver. Donc j'imagine, est-ce que vous avez prévu des actions? Parce que ma prochaine question est, quelles sont les actions ou les évolutions à venir prochainement ou d'ici quelques années? Donc je sais que le chantier est très, très vaste pour ce qui est de la contre-voie. Pour Picasoft, j'imagine que vous faites quelque chose pour la fête de la science. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir importants?
Oui, alors en général, on va dire que les projets de Picassoft, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire à peu près, c'est-à-dire de voilà, toujours organiser des conférences, des ateliers, des émissions de radio. Et puis, pour la fête de la science, et je pense en général aussi pour toutes nos actions, c'est vrai qu'on va davantage prendre en compte et insister sur les sujets liés à, aux enjeux environnementaux liés au numérique. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce que on va repenser la conception d'un outil selon les impacts qu'il peut avoir, les impacts donc sur l'environnement et sur alors la société en général, mais en particulier sur l'environnement. Comment essayer de voilà de comprendre déjà les impacts des outils numériques sur l'environnement et ensuite essayer de voir comment eh bien on peut influencer la conception d'outils pour avoir des outils plus soutenables. Ces questions-là vont être davantage présentes dans les actions de Picassoft, vraisemblablement, et notamment à la fête de la science, où les ateliers prévus sont en construction, mais vont concerner principalement ce sujet-là.
Et pour la contrevoie, quels sont les projets évolutions à court terme et à moyen terme?
Alors, déjà, nous serons présentes et présents au Capitole du Libre pour une conférence et un stand. Voilà, c'est casé. Le Capitole du Libre, c'est, je crois que c'est le 22 et 23 novembre, si je ne dis pas de bêtises.
Je crois que c'est, je vais te le dire tout de suite, je crois que c'est plutôt le 19 et 20 novembre. Oups, à Toulouse, qui était très, très prête.
Voilà, exactement. Et donc, notre but, c'est aussi de cibler, de s'adresser en tout cas à des publics, aussi à la communauté du libre, parce que ça fait du bien de se retrouver entre militantes et militants et de faire ensemble, finalement, avec d'autres personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes enjeux. À court terme, on va déménager, voilà, parce qu'actuellement, notre siège social est toujours à 42 et donc on aimerait sortir donc, l'association de 42. Donc, on est en cours de déménagement à titre personnel et donc on va certainement faire venir l'asso avec nous d'ici peut-être quelques semaines. Et puis il y a toujours le chantier vis-à-vis du site web et du renommage, du changement de nom de tout ce qu'on a écrit avec 42 L dedans. Et bien il faut que ça devienne la contrevoie. Et ça prend un temps assez phénoménal. Voilà les chantiers que nous allons sur lesquels nous allons travailler ces prochaines semaines.
Et à propos de Picassoft et de la contrevoie, là, je vous ai invité, mais en fait, vous y étiez déjà rencontrés par le passé. C'est-à-dire que vous avez eu l'occasion déjà de faire quelque chose ensemble. Vous, Neil, tu souhaites peut-être en parler. Audrey, tu peux bien sûr rebondir.
Oui, on a travaillé ensemble sur un atelier de sensibilisation avec Starting Block, par exemple, lors des webinaires Provox, qui avait eu lieu.
Tu peux nous dire un peu qui est Starting Block, expliquer un peu au grand public.
Starting Block, c'est une association d'éducation populaire qui a pour but de sensibiliser des publics. Je ne sais pas exactement quels sont les détails de leurs activités, mais en tout cas, on a eu plusieurs occasions de travailler ensemble. Et donc, il nous a proposé d'organiser un webinaire en ligne, parce que c'était pendant le Covid, avec notamment Framasoft et une autre personne de Change.org. Donc, on a travaillé sur les enjeux démocratiques des données personnelles. Et évidemment, on a eu l'occasion de se voir au JDLL, à toutes les conventions du libre annuelles, Passage en scène, par exemple, à Choisis le Roi. Régulièrement, on se croise et ça fait du bien quand même de se retrouver, d'avoir des assos qui font un petit peu les mêmes choses, avec un petit peu le même public. C'est très agréable, c'est très motivant. Et je pense que c'est aussi pour ça que le collectif existe.
Je confirme. Je confirme, ouais. Simplement.
Très bien. Un autre aspect que je voulais aborder, c'est comment réagissent. Alors, c'est pas le cas pour 42 parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Tu l'as rappelé. Mais vous rencontrez des enseignants au moment où vous proposerez des conférences, des formations auprès de classes, j'imagine. Donc, pour Picassoft, tu disais que les enseignants, il y a un petit noyau d'enseignants qui sont déjà très sensibilisés au logiciel libre et qui ont été des alliés, voire des fondateurs même de l'association. Les autres enseignants, ceux qui ne sont pas sensibilisés, est-ce qu'il y a des retours de leur part quand vous faites des formations auprès des étudiants? Ils restent dans un coin où ils participent parce que c'est ça le problème aussi, il faut que les étudiants, comment dire, ils apprennent de nouvelles choses, ils prennent conscience grâce à l'éducation populaire des enjeux liés au numérique, mais après il faut aussi que les enseignants ne les obligent pas à utiliser des outils privateurs, sinon ça c'est un peu en contresens.
Ah oui, ça dépend des cours, en effet, parfois certains cours, je pense en mécanique, dans certains cours, les étudiants doivent utiliser des outils propriétaires, c'est ainsi. Après, voilà, l'idée à l'UTC, c'est ce que l'on fait en tout cas avec Picasoft, c'est on n'essaye pas de renverser complètement la balance et puis d'imposer une hégémonie du libre à l'UTC, c'est-à-dire que on montre que ça existe, on essaie de faire manipuler des alternatives libres, montrer que l'on a le choix, montrer que on peut utiliser tel outil à la place d'un autre. Et donc, en effet, dans certains cours, il est possible de tenir un cours, d'organiser des exercices avec des outils libres. Et dans ce cas-là, c'est bienvenu. C'est pas la guerre, l'UTC, à propos de logiciels libres. Non, c'est vrai. Mais parce qu'il n'y a pas de conflit à avoir, au sens où on va montrer que certaines alternatives existent, elles vont être utilisées dans des cours. Dans d'autres, où c'est a priori impossible, c'est ainsi. Mais voilà, c'est a priori, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de résistance à proprement parler envers ces initiatives qui poussent à amener davantage de libres dans le cursus ingénieur.
En tout cas, ce serait super d'avoir un château dans chaque université. Hein. Ce serait super. Oui. notre temps arrive à la fin, mais avant de terminer notre échange, j'aimerais poser la question emblématique de la fin, c'est-à-dire qu'il si vous deviez, vous souhaiteriez que le public retienne quel message clé de notre échange, c'est le moment de partager quelque chose qui vous tient à cœur, qu'on n'a peut-être pas abordé au cours de l'échange. C'est votre moment en 2 minutes environ. Neil, tu veux peut-être commencer ?
D'accord. Alors, nous, on a fait le choix ces dernières semaines. On a réfléchi en interne, on a décidé d'élargir nos plateformes de communication pour s'adresser à des publics qui ne sont pas sur Mastodon. Voilà, donc Mastodon, c'est un réseau social fédéré, une alternative à Twitter, une alternative libre à Twitter.
Et décentralisée.
Et décentralisée, tout à fait. Et nous avons réfléchi en interne et on s'est dit que si on veut sensibiliser à des publics non initiés, Mastodon, c'était peut-être pas le meilleur lieu pour sensibiliser des non-libristes, on va dire, donc des personnes qui ne défendent pas forcément bec et ongle les enjeux du numérique comme on pourrait le faire. Et donc, on s'est dit qu'il fallait aller chercher les publics là où ils sont pour les aider à choisir des logiciels qui vont mieux protéger leur liberté fondamentale et leur liberté numérique. Et donc, on a décidé de créer un groupe Discord très récemment afin d'accueillir spécifiquement, d'ailleurs, le public étudiant, puisque...
Je ne connais pas trop Discord, et peut-être que d'autres personnes ne le connaissent pas. Faudras-tu nous préciser ?
Discord, c'est un logiciel de messagerie instantanée, comme WhatsApp ou plutôt Skype, par exemple.
C'est privateur.
Totalement propriétaire, fait un usage qui n'est pas forcément très éthique de nos données, évidemment. Mais voilà, en fait, on s'est aperçu que beaucoup d'étudiantes et étudiants utilisent Discord, et donc si on arrive à toucher ces publics-là à travers, par exemple, de la veille technologique ou de la veille politique, informationnelle, généralement, qu'on organiserait sur Discord, ou faire en sorte que ça soit une porte d'entrée vers nos activités, ça permettrait à ces personnes-là de s'ouvrir un petit peu à ce qu'on a à leur proposer. Et de la même manière, nous aimerions potentiellement créer un compte Instagram ou d'autres plateformes sur lesquelles nous pourrions, qui sont pas du tout propices au partage des enjeux du logiciel libre parce que ce sont des plateformes privatrices, mais sur lesquelles nous pourrions nous développer de façon à faire de la contre-influence, donc continuer à faire ce que l'on a toujours fait à la contre-voix.
On détournait l'usage finalement pour sensibiliser à vos enjeux, aux enjeux du logiciel libre.
D'une certaine manière, oui, exactement.
Merci Audrey. En mot de la fin.
Oui, un mot de la fin, dire que lorsqu'on commence à se poser des questions vis-à-vis des outils numériques que l'on utilise, c'est le point de départ d'action après individuelle ou collective, mais pour se réapproprier les outils. Et puis, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de d'impuissance, de fatalité à se dire bon, eh bien, de toute façon, je vais utiliser des outils propriétaires puisque je n'ai pas le choix et que je ne sais pas faire autrement. Non, il y a la possibilité d'aller voir un chaton local, c'est-à-dire de se rendre sur chaton.org et d'aller voir les organisations qui sont près de chez soi. D'aller parler à des humains qui travaillent sur ces questions-là. Et puis, simplement de se dire qu'il est possible, si on a envie de se poser ces questions-là, et de se réapproprier des outils numériques pour être capable, encore une fois, de les choisir en toute connaissance de cause, de savoir ce qu'ils font de nos données, etc. Eh bien, c'est possible sans connaissance technique, c'est possible en ayant l'impression qu'on n'y connaît rien. Ce n'est pas vrai. On y connaît beaucoup de choses déjà. Et puis, avec le lien humain, justement, qui se crée dans ces chatons, dans ces collectifs-là, on apprend énormément. On apprend de façon conviviale et avec beaucoup de plaisir, comme tu le disais, Neil. Et ça commence par là. Et ensuite, c'est comme ça que l'émancipation arrive. Et voilà.
Donc aujourd'hui, il y a plein d'acteurs, ils sont visibles, vous pouvez les trouver. Donc si vous voulez en savoir plus pour vous émanciper, notamment sur ces questions, n'hésitez pas. Hein. On l'a dit, il y a les chatons notamment, mais il y a aussi les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres. Il y a l'agenda du livre où vous pouvez trouver des événements près de chez vous. Donc n'hésitez pas, aujourd'hui c'est possible, c'est visible, vous avez toutes les informations, allez-y. Audrey Guélou de Picassoft, Neil de la Contrevoix, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne continuation pour vos projets.
Merci beaucoup, Isabella. Merci, Neil. Merci à l'April et la radio.
Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique L'Apituite de Luc, la première de la saison 6. Nous allons écouter Laughing Along par Square People. J'ai choisi ce morceau un peu foufou, déjà parce que je l'aime bien et puis car je trouve qu'il introduit bien le sujet suivant. Donc on écoute Laughing Along par Square People et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune,
'Venant d'écouter Laughing Along par Square People, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Je suis Isabelle Lavani de l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique L'Apituite de Luc, la première de la saison 6. Le titre est « Je suis un boomer ». La chronique a été enregistrée hier. Je vous propose de l'écouter et on se retrouve juste après.
J'ai 50 ans depuis quelques mois, mais ce n'est que récemment que j'ai réalisé que je suis né à la toute fin du baby-boom. Je croyais que c'était réservé à la génération de mes parents, mais en réalité, je suis un boomer de plein droit. Je dois admettre que j'ai quand même un peu raté ma vie, car je n'ai aucune breloque qui pendouille à mon poignet. J'ai du mal à endosser soudainement ce costume de boomer, j'ai l'impression d'avoir des lacunes à combler. Peut-être qu'en réalité je n'ai pas besoin de tout ça et que j'ai déjà eu droit à un hockey boomer dans mon dos, mais à mon âge, si mes oreilles sifflent, je ne sais pas si c'est à cause du mal qu'on dit de moi, ou juste de mes acouphènes. Quoi de mieux que la bagnole pour rattraper mon retard? La bagnole, c'est un truc de vieux, seul eux en achètent des neuves, allégoriquement notre société est un boomer blasé dans un gros SUV qui fonce dans le mur. Dans une de mes pituites visionnaires, j'expliquais que la vraie réussite, c'était de pouvoir tuer des gens impunément. Or, le crime parfait existe. Il suffit de rouler sur quelqu'un et de dire « Oups, pardon, je l'avais pas vu, j'étais bourré ». C'est ce que semble regretter Thibaut M. du blog Automobile. Il y rapporte une affaire de ce type où le tueur s'était donné toutes les chances de réussite avec de l'alcool dans le sang, de la cocaïne dans le nez et un volant entre les mains. Il s'en est sorti avec 2 ans de sursis. Je parie que Thibaut a bien moins de 50 ans et souffre d'un manque chronique d'ambition pour s'insurger si naïvement. Un boomer accompli achète une bagnole grosse et puissante parce que ça lui fait le kiki tout durant. Il prend un excès de confiance et se crache plus souvent que s'il avait eu une petite voiture. S'il a coché la case SUV ou même mieux pick-up américain, il optimise son kill ratio sur les piétons en les heurtant à la tête et au thorax au lieu de leur casser médiocrement les genoux. Mais il y a une exception. Tesla arrive à convaincre des non-boomers de casser leur tirelire. Cette bagnole marche à pile, elle ne pollue pas. En fait, il s'avère que les pneus eux-mêmes sont plus polluants que les gaz d'échappement. Rouler électrique ne dispense donc pas du doux sentiment de réussite que procure la possession d'un gros truc puissant qui tue des gens. Et je ne parle pas de recyclage, qui se soucie de l'avenir de toute façon. Et puis, électrique ou non, une caisse est une caisse. Cela perpétue le monde absurde forgé par les boomers au nid. Le CX optimisé d'une Tesla ne la fait pas rouler plus vite dans les embouteillages, et elle requiert toujours de déplacer 25 kg de bagnole pour 1 kg de passagers. Oui, mais c'est aussi un véhicule intelligent, qui se conduit tout seul, objectera le fanboy. Faut voir. Tesla a fait exploser le prix du service, viré 200 personnes dans ses équipes spécialisées, et à l'État de Californie qui lui agite des menaces légales sous le nez, au titre que autopilote est un nom trompeur, qui amènerait les conducteurs à toutes les imprudences. Elle est où la différence avec le boomer qui se croit invulnérable dans son SUV? Je ne la vois pas. Les fanboys objecteront à nouveau que Tesla c'est du pur génie sur pneus. La digitalisation de l'automobile. Ils auront raison, et c'est bien ça qui prouve que les boomers sont toujours à la pointe. Ainsi, Mario Zelaya, un Canadien excédé par sa Tesla, affirme qu'il est sommé de claquer 26 000 $ pour changer ses batteries qui fuient. En attendant, il est kickban de sa propre voiture. Pour la refourguer, il a dû refaire sa carte grise. Il ne l'a pourtant pas perdue, elle est juste enfermée dans sa bagnole. J'ai également découvert Deus Ex Silicium, un YouTuber interviewé sur la chaîne Underscore. Cet ingénieur démonte les équipements électroniques pour les étudier et dénonce souvent des arnaques. Il y explique, en rigolant, avoir renoncé à examiner l'intérieur de sa clé de Tesla, sous la menace de se faire punir par le constructeur. Sa voiture n'est pas tout à fait la sienne, mais ça n'a pas l'air de déclencher son talent de pourfendeur d'escroquerie. Et puis il n'y a pas que Tesla, BMW en prend la graine, puisque la marque propose désormais l'option siège chauffant sous forme de location. Je pense que la prochaine étape sera de se faire séquestrer dans sa voiture, ligoter avec la ceinture de sécurité, forcer à regarder 15 minutes d'élucubration de Musk pour pouvoir démarrer ou quitter le véhicule. Et dans l'hypothèse où on n'aurait pas payé son abonnement, le siège robotisé nous prélèvera un rein pour le détenir en otage dans un bac relié à la clim jusqu'au moment où un esclave d'Amazon viendra la prendre en livraison pour la revendre sur le marché de l'occasion. Les Tesla fanboys et apparentés ne sont rien d'autre que des pré-boomers. Ok boomer devrait être entendu comme la reddition au modèle auquel tout le monde aspire finalement. Le monde est quand même bien fait.
Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter la première chronique, La Pituite de Luc, enregistrée hier de la saison 6. Ça démarre fort aussi. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Le projet GNU, lancé en 1983 par Richard Stallman, fête aujourd'hui ses 39 ans. C'est un anniversaire important pour le monde du logiciel libre. GNU est en fait un ensemble de logiciels qui constitue le système d'exploitation 100% libre GNU Linux. On ajoute Linux car le système utilise le noyau créé par cet autre projet. Le système d'exploitation GNU Linux est utilisé par les distributions Debian, Ubuntu, Mageia, Fedora et plein d'autres. Le GNU Hackers Meeting aura lieu le week-end des 1er et 2e octobre 2022 à Izmir en Turquie. Ça fait un peu loin, je vous l'accorde. Et si on l'annonce ici, c'est que des conférences seront a priori accessibles à distance. Consultez le site gnu.org pour les détails. Toujours le week-end des 1er et 2e octobre 2022, mais beaucoup plus près cette fois à Paris, auront lieu les journées Open Food Facts 2022. Open Food Facts est un projet collaboratif dont le but est de constituer une base de données libre et ouverte sur les produits alimentaires commercialisés dans le monde entier. Les journées Open Food Facts sont organisées pour encourager les échanges entre les contributeurs et contributrices sous le plan du développement et ou de la réutilisation des données. Si vous souhaitez libérer votre ordinateur, mais que vous n'avez pas les compétences pour le faire, profitez des événements organisés par les GUL, les groupes locaux d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, ainsi que par les autres associations de promotion du libre. En Ile-de-France, cette semaine, vous avez 4 rendez-vous ouverts à tout le monde, à Évry-sur-Seine, Val-de-Marne, ce mardi 27 septembre de 19h à 22h, à l'Université Paris 8 Saint-Denis, jeudi 29 septembre de 10 à 17h, à Vanves, Hauts-de-Seine, samedi 1er octobre de 9h30 à 18h, et à Saint-Cyr-l'École, dans les Yvelines, toujours le samedi 1er octobre de 14h à 17h. Vous pouvez consulter le site de l'agenda du livre, agendadulibre.org, pour trouver les détails de ces rendez-vous, ainsi que les autres événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine, vous pouvez entendre déjà le générique sur le fond. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Audrey Guélou, Neil, Jean-Christophe Becquet, Luc, aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Langen, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, le directeur de l'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin, bénévole à l'April, qui découpera les podcasts complets et en podcasts individuels par sujet. Quentin Giraud. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire de retour pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question, le numéro de répondeur 09 72 51 55 46, je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la Radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 4 octobre 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur DevOps. De quoi s'agit-il? Eh bien, si dans les métiers de l'informatique, on distingue généralement le développement logiciel et l'administration des infrastructures, le DevOps est une pratique consistant à unifier ces deux aspects au sein d'une même pratique et d'un même métier. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et on se retrouve en direct mardi 4 octobre. D'ici là, portez-vous bien.